Okapi.
Radio Okapi.
En Bougimaï sur 93,8.
Voilà, au Kasaï oriental, plus d'une dizaine des médecins ont suivi la semaine dernière dans la salle des GTZ une formation sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Elle a concerné des médecins venus de tous les districts de la province, hormis celui du Sankourou. Il s'agit particulièrement de ceux qui proviennent des maternités ciblées par les PNLS, et l'UNICEF dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. Pourquoi cette nouvelle formation en faveur de ces médecins? Nous en saurons un peu plus avec notre confrère Billy Yvan, comme je l'ai dit tantôt. Billy Yvan, vous êtes en ligne, vous avez rencontré des médecins en formation. La formation qui n'est pas la première du genre, en quoi cette nouvelle formation diffère-t-elle de toutes les autres?
Signalons d'emblée que cette formation entre dans le cadre des activités prévues dans le plan de travail de l'an 2007 du programme national de lutte contre le VIH/SIDA, le PNLS, comme vous l'aviez dit, en accord avec l'UNICEF. Et dans ce plan, il était d'abord prévu une formation des médecins prescripteurs des antirétroviraux qui s'est tenue toujours ici en Mbujimaï, à la Caritas, il y a de cela un mois. Alors, la formation en cours vient compléter celle sur la prescription des antirétroviraux, avec la particularité que celle-ci va permettre aux médecins, grâce aussi à l'appui des infirmiers, de suivre efficacement des femmes enceintes dépistées VIH positif et leurs enfants. Alors pour ce faire, je vous prie de suivre le docteur Patrick, qui est médecin chef de zone de santé de Dibindi, qui a participé à ce séminaire, à cette session.
La particularité de cette formation a concerné les suivis de mères et enfants à VIH positif. Concernant la prise en charge aux ARV, étant donné qu'un enfant né de mère VIH positif a droit aussi à être suivi et avoir aussi accès au traitement antirétroviral. Ce n'est pas un enfant que nous devons laisser disparaître dans la nature, mais nous devons parvenir à le suivre jusqu'à ce qu'il puisse au moins atteindre aussi un âge où il peut prendre lui-même sa décision de pouvoir suivre son traitement antirétroviraux seul. Avant cela, les enfants étaient abandonnés à leur propre triste sort, à part la prévention qu'ils ont donnée lors de l'accouchement. Mais actuellement, après 18 mois, si ces enfants-là se sont avérés VIH positifs, ces enfants-là ont droit, selon les critères d'éligibilité, à avoir le traitement antirétroviral.
Alors Billy, dites-nous comment les choses vont se passer sur le terrain. Ces médecins seront-ils à même de couvrir les besoins de toutes les femmes et tous les enfants touchés par l'infection VIH?
Les médecins concernés sont ceux qui proviennent des maternités ciblées par le PNLS et l'UNICEF, comme vous l'aviez d'ailleurs souligné, dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. Comme les médecins travaillent avec les infirmiers, il y a aussi un groupe d'infirmiers qui ont suivi également une formation du genre afin de converger les efforts. Madame Thibola est infirmière au centre hospitalier de Mbujimaï et elle avait aussi participé à cette session. Je vous prie de la suivre.
Nous avons eu des nouvelles approches, les suivis des PVV et leurs enfants. Et puis, on a vu comment préparer même les patients. Et puis, quand mettre ces PVV-là sous ARV, il y avait aussi comment traiter les infections opportunistes, des infections aiguës, les infections chroniques et leur suivi. J'ai vu des limites, où est-ce que les médecins commençaient et moi aussi, où est-ce que je dois commencer aussi avec le suivi de ces PVV.
Voilà, donc le suivi de ce PVV. Billy, quel est l'avis de médecins participants à la formation quant à l'apport relatif aux matières qu'ils ont apprises?
Hier, à ce niveau, je voulais suivre le docteur Sylvain Kasonga. Lui, il est médecin directeur de l'hôpital général de référence de Chilingue, qui se trouve à près de 30 kilomètres de Mbujimaï.
Vous savez, il y a des cas particuliers, la femme enceinte avec les antirétroviraux et l'enfant avec les antirétroviraux. Et ce sont ces particularités-là qu'il fallait qu'on nous donne pour que la prise en charge soit effective et totale. Dans la prise en charge, il y a toujours des effets indésirables par rapport au nouveau-né qui va venir, par rapport à sa grossesse. Il y a certains médicaments qui sont tératogènes au premier trimestre. C'est-à-dire que les antirétroviraux, ce sont des molécules qui ont certains effets déjà secondaires pour les adultes. A fortiori, une femme qui est enceinte, vous savez, la grossesse, elle déprime l'immunité aussi. Et si on doit prendre ces antirétroviraux avec la grossesse, une femme VIH positif, je crois que cette formation valait vraiment bien son pesant d'or par rapport à cette prise en charge.
Voilà, Yvan, Billy, on va s'arrêter là, parce qu'on va donner la parole à notre invité, Dr Léonard Yabadilé, médecin coordonnateur du PNMLS. Vous avez autre chose à ajouter?
Non, peut-être c'est juste pour dire que à l'issue de cette session de formation, les médecins avaient reçu chacun un brevet pour vraiment donner un cachet particulier à cette session de formation, bien entendu les infirmiers aussi. Alors comme vous venez de le dire avec Dr Léonard, vous pouvez donner plus amples explications à nos auditeurs.
Merci Monsieur Billy et à la prochaine.
Je vous en prie, Billy.
Docteur Léonard Yabadilé, vous êtes médecin coordonnateur du PNMLS, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez organisé une session des formations au bénéfice de médecins venus de tous les districts de la province pour leur apprendre de nouvelles approches de la prise en charge de femmes enceintes affectées par le VIH. Est-ce qu'on peut dire que cette formation a été motivée parce que hier la prise en charge n'a pas été vraiment effective?
Oui, en fait, je voudrais d'abord commencer par apporter une correction. Je suis le coordonnateur du PNLS, non du PNMLS.
PNLS, Programme PNLS. National de lutte contre le SIDA.
Le SIDA, oui. Au sein du ministère de la Santé.
Oui, alors...
En fait, la formation n'a pas porté sur la prise en charge. C'était le suivi des femmes VIH positives et leurs enfants. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte par le passé, en faisant la prévention de la transmission mère et enfant, c'est que la femme dépistée VIH positive accouchée, en fait, cette femme-là, on ne savait pas ce qu'elle devenait par après, ainsi que son enfant. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'il fallait pouvoir renforcer la prise en charge ici, des femmes en les suivant correctement après l'accouchement et même pendant la grossesse des personnes déclarées VIH positives.
Alors comment ça se faisait, si on peut faire nous pouvons nous faire une idée précise avant cette nouvelle approche, comment vous procédez?
Donc disons qu'avant, c'est que dès qu'une femme est déclarée VIH positive et qu'elle est enceinte, on s'occupait plus de pouvoir réduire le risque de transmission de l'infection à l'enfant. Et on oubliait le fait que la femme elle-même, étant déjà infectée, avait aussi besoin d'une prise en charge adéquate ainsi qu'un suivi. De même que l'enfant, dès qu'il naîtra, il faudrait absolument qu'on soit capable de dire à 18 mois qu'il est VIH positif ou pas. Ou tout simplement avant 18 mois, l'enfant peut aussi avoir besoin d'une prise en charge adéquate. Voilà sur quoi a tourné la formation.
Donc on peut dire que la prise en charge de mères vivant avec le VIH-SIDA, ces femmes enceintes, présentaient beaucoup d'effets indésirables.
Donc ça veut dire que même si vous regardez dans les statistiques, aucune femme VIH positive au niveau de la province n'est sous traitement aux antirétroviraux. Or, il y a déjà des femmes qui sont enceintes et qui sont déjà éligibles. De la même manière, dans le même ordre d'idée, aucune femme n'a été suivie correctement pour les infections opportunistes que nous savons être très fréquentes au cours de l'infection à VIH.
Alors, une femme qui ne connaît pas son état sérologique, bien qu'elle soit enceinte, après qu'elle ait accouché, comment saura-t-elle que, effectivement, elle est dans ces cas de femmes, disons, affectées par le VIH?
Ça, c'est aussi un autre problème. La plupart des femmes qui étaient enceintes et qui ont donné naissance, c'est souvent par la maladie de l'enfant qu'on arrive à remonter à elles. En voyant les signes que l'enfant présente, on fait les tests chez l'enfant. À ce moment-là, on se dit si l'enfant a été infecté, c'est que probablement cette infection provenait de sa mère. Voilà un peu une situation assez triste dans laquelle on se retrouve le plus souvent pour remonter auprès des parents.
Oui, parce qu'on va aider quand même les mamans qui nous suivent en ce moment. Et quels sont ces signes, ces symptômes qui peuvent peut-être attester que cet enfant a été affecté? Déjà, ces signes peuvent-ils se manifester?
Non, il n'y a pas un âge précis où ces signes peuvent se manifester. Ça peut se manifester à n'importe quel moment. Dans un premier temps, disons que le diagnostic de l'infection à VIH enfin, n'est pas vraiment très aisé hein, parce que vous savez qu'il y a des infections qui arrivent chez l'enfant et, qui est aussi VIH négative, telles que par exemple les otites, donc une atteinte de l'oreille, tout ça. Ce sont des infections qui sont fréquentes chez les enfants, mais qui peuvent aussi arriver en cas d'infection à VIH.
Oui, ben, un enfant qui est né d'une mère séropositive peut chaque fois tomber malade ou peut-être manifester une certaine résistance jusqu'à à un certain âge adulte. Est-ce que c'est possible?
Disons que chez les enfants, l'infection, en fait, il y a des enfants qu'on appelle des enfants chez qui on appelle des progresseurs rapides. Dans la plupart des cas, avant 2 ans, on voit que la plupart des enfants meurent avant 2 ans, donc auront des signes avant 2 ans. Et il y a une autre catégorie des enfants qui peuvent continuer à porter cette infection jusque même à 10, 15 ans, sans qu'elle ne puisse se manifester. Mais la plupart des enfants meurent avant l'âge de 2 ans, dans le cas où aucune intervention ne leur est apportée.
Oui, ben alors, la formation, s'est-elle bien déroulée? Quel est le résultat que vous avez obtenu?
Bon, en fait, d'une manière générale, la formation pour nous, en tant qu'organisateur, la formation s'est très bien déroulée parce qu'il était prévu premièrement de former 12 médecins et 20 infirmiers. Nous y sommes arrivés. Bon, nous voyons aussi les résultats d'évaluation des participants qui ont montré que le niveau de connaissance s'est nettement amélioré par rapport à celui d'avant la formation et que nous estimons que la prise en charge sera vraiment adéquate.
Alors comment allez-vous organiser le suivi? Parce que le PNLS va-t-il continuer avec ses 12 médecins ou ils vont maintenant travailler d'une manière indépendante?
Bon, le PNLS, d'abord, c'est un organe technique. Donc, après avoir formé les gens, nous devons, en principe, continuer à les suivre sur le terrain en termes de supervision. Il y a aussi le suivi même et même des évaluations périodiques qui vont pouvoir nous permettre de voir les niveaux de performance atteints de façon à ce que nous puissions corriger. Et ensuite, nous espérons que nous allons avoir suffisamment de moyens pour pouvoir élargir, donc augmenter le nombre de formés dans cette activité-là, parce que quand vous voyez bien les 12 là, les trains et 30 infirmiers, c'est à peu près juste dans 12 maternités tout ça.
Oui, docteur Léonard Yabadilé, nous rappelons que vous êtes médecin coordonnateur du programme national de lutte contre le sida. Vous avez dit que vous avez organisé une formation sur le suivi d'une femme séropositive ainsi que de son enfant. Mais les problèmes qui se posent, c'est souvent, généralement, ces femmes n'ont pas de moyens. Alors comment allez-vous finalement suivre ces femmes-là après l'accouchement ainsi que leurs enfants? Est-ce que vous comptez les assister financièrement parlant?
Comme on l'avait dit, l'autre fois, je suis, en fait, quelqu'un lorsqu'il est infecté par le VIH, il soit en plein. Des trois formes d'entraînement. Nous avons beaucoup insisté dans le cadre de la prise en charge médicale. Après de ça, il y a la prise en charge médicale, la prise en charge médicale. Nous espérons qu'avec les autres partenaires, nous allons pouvoir.
On ne saisit pas très bien vos propos, hein, docteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Parce que ce que vous dites est très important. Il y a de nombreuses femmes hein, qui vous suivent là-bas dans le Kasaï. Donc, il faut être vraiment... soyez attentifs. Alors, nous allons savoir. Vous avez dit qu'il y a la prise en charge médicale. Ça veut dire que vous distribuez des médicaments à toutes ces mamans. Nous savons qu'il y a un traitement qui existe pour les femmes séropositives. Déjà pendant qu'elles sont enceintes, on leur administre ce traitement-là. Est-ce que les hôpitaux de Mbujimayi sont équipés, les centres sont équipés?
C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Toute personne infectée doit pouvoir bénéficier de 3 formes de prise en charge. La première, c'est la prise en charge médicale. Là, vous avez parlé des médicaments, donc là où on prévient les infections, on donne des traitements aux antirétroviraux lorsque la personne est jugée éligible, donc elle en a besoin. La deuxième forme, c'est la prise en charge nutritionnelle. La troisième forme, c'est la prise en charge psychosociale. Parce que vous parliez des moyens, ce sont des personnes. Dans le cadre de la prise en charge psychosociale, où on essaie sans sortir de pouvoir apporter des solutions à ce problème de moyens. En ce qui concerne la prise en charge médicale, nous avons certainement des médicaments, mais jusque-là, les gens ne sont pas totalement couverts dans la province.
Voilà. Alors docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux de prévalence au niveau de la province de Kassai-Oriental?
Oui, notre prévalence moyenne, ça c'est dans la population générale, est de 5,9%. Mais j'aurais aussi aimé donner le taux de séropositivité au cours du premier semestre dans les sites où on fait la prévention de la transmission mère et enfant. Au premier semestre, nous sommes arrivés à tester 6153 femmes et 263 ont été trouvées VIH, ce qui représente environ 16,3%.
Est-ce que avec l'arrivée de cette nouvelle approche de la prise en charge, vous pensez que il y aura quand même une variation à la baisse du taux de prévalence?
Dites d'emblée comme ça qu'avec cette nouvelle approche, il y aura une tendance à la baisse. Ça serait peut-être un peu précipité parce que comme vous le savez, lutter contre le VIH, c'est vraiment quelque chose de complexe. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Et nous espérons tout simplement qu'à travers les services de prévention de la transmission mère et enfant, compte tenu du fait que nos prestataires sont en train de donner des connaissances appropriées aux femmes, nous espérons que nous allons contribuer efficacement à la réduction, si pas de la transmission mère et enfant du VIH, mais aussi de la transmission VIH.
Docteur Léonard, merci d'avoir été de notre et à la prochaine.